Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous. Le Hamas annonce la restitution ce soir à 21h, heure israélienne, des corps de deux otages israéliens. Par ailleurs, les plus hauts responsables américains sont en Israël, à l'exception de Donald Trump, évidemment. Le vice-président J.D. Vance, les négociateurs Wilkoff et Jared Kushner pour faire avancer la mise en œuvre de la deuxième phase du plan Trump pour Gaza. Hier soir, un autre corps d'otages a été rendu et rapatrié aux Israéliens. Le corps a été enterré dans la journée. Donald Trump avertit, si le Hamas viole l'accord, sa fin sera rapide et cruelle. Le président américain affirme que plusieurs alliés régionaux ont promis à sa demande d'être prêt à intervenir avec une force lourde dans la bande de Gaza si le Hamas ne respecte pas l'accord de trêve. Tzahal, qui estime que le Hamas a perdu 90% de son arsenal de roquettes, selon une information de la chaîne américaine NBC qui cite des sources militaires israéliennes, le Hamas ne dispose plus que de 10 000 à 20 000 combattants après avoir perdu environ 20 000 hommes depuis le début de la guerre. L'armée israélienne estime également avoir détruit jusqu'à 90% de l'arsenal de roquettes du Hamas. Emmanuel Macron rappelle l'urgence absolue à faire entrer l'aide humanitaire. Le président français a appelé à une mobilisation internationale urgente pour garantir l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. La question du forum des auditeurs de ce soir concerne le cessez-le-feu. Pensez-vous tout simplement qu'il peut tenir? Vous nous appelez aux... Non, excusez-moi, on a changé de sujet et pas du tout. Ce soir, le sujet, c'est Nicolas Sarkozy. On a une discussion entre nous, on a dit non, Sarkozy. C'est le sujet du jour, le cessez-le-feu, on pourra en parler demain. Il n'est pas prêt de, ni de se poursuivre, ni de s'arrêter. Et donc, Sarkozy, c'est l'information que nous développerons ce soir dans notre forum. Bah, pensez-vous que c'est justifié ou pas? C'est tout simple. Vous nous appelez au 01 43 36 04 06. 01 43 36 04 06. Le format, c'est à 18h. C'est tout de suite après le journal. On part tout de suite à Jérusalem où l'on retrouve notre correspondant permanent, Dror Erwin Sapir. Bonsoir, Dror.
Bonsoir.
Alors, Dror, je viens de le dire, le vice-président américain est en Israël, les plus hauts responsables américains sont sur place. On a vu, vous nous en avez parlé hier soir, que le cessez-le-feu était très fragile, qu'il a été malmené avec des morts, avec des tirs, des échanges de tirs et des morts. Et donc, qu'est venu faire en Israël l'un des personnages les plus importants des États-Unis, Dror?
Eh bien, le vice-président américain, J.D. Vance, qui est venu pour s'assurer que le cessez-le-feu allait être maintenu en exerçant une sorte de pression sur le gouvernement israélien. D'après certaines indiscrétions des médias en Israël, l'administration américaine aurait été inquiète non seulement des violations répétées du cessez-le-feu par le Hamas, mais aussi de l'intention manifestement de prêter à Benjamin Netanyahu et à son gouvernement de réagir d'une manière très ferme à cette violation du cessez-le-feu, d'une manière sanglante qui aurait pu peut-être menacer le cessez-le-feu lui-même, d'où la présence ces jours-ci en Israël de trois parmi les personnages les plus influents à Washington, l'émissaire Steve Witkoff, le gendre de Donald Trump, et conseiller du président américain Jared Kushner, et donc le vice-président J.D. Vance qui est arrivé aujourd'hui. Il a donné une conférence de presse, accompagnée d'ailleurs de Kushner et de Witkoff, en début de soirée dans cette installation de l'armée américaine dans le sud d'Israël, à proximité de la bande de Gaza. C'est un endroit depuis lequel un certain nombre de soldats américains déployés en Israël, donc une petite centaine, sont censés superviser le maintien du cessez-le-feu et peut-être aussi la mise en œuvre des prochaines phases du plan de paix américain. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que le vice-président américain a demandé aux Israéliens de faire preuve de patience concernant deux des éléments les plus importants aux yeux d'Israël de ce plan de paix américain, à savoir bien évidemment la restitution des corps des otages morts en détention, On sait qu'elle se fait au compte-goutte. D'ailleurs, le Hamas a annoncé aujourd'hui qu'il allait remettre deux corps d'otages morts en détention dans le courant de la nuit. Et puis l'autre élément qui importe, qui est de la plus haute importance, même évidemment pour Israël, c'est la démilitarisation de la bande de Gaza, le désarmement de Hamas et la démilitarisation du territoire. Ça prendra du temps à investir Jed Evans, mais cela ne signifie pas, selon le président américain, que le cessez-le-feu est menacé. Il est maintenu en dépit de violations du Hamas. D'ailleurs, le vice-président américain a adressé une menace à l'encontre de l'organisation islamiste palestinienne si elle ne coopère pas dans la mise en œuvre des différentes phases du traité américain. Eh bien, elle sera, donc le Hamas sera détruit. Et puis le vice-président américain a également laissé entendre que si la paix dans la bande de Gaza se maintient, si ce plan de paix fait ses preuves à travers le temps, puisqu'on prend une fois et l'appeler à la patience, d'autres accords de paix viendront dans la région. Et on pense bien évidemment à d'éventuelles normalisations des relations entre Israël et plusieurs pays du monde arabe au musulman.
Dror Even Sapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Le Hamas, je vous le disais en titre, annonce la restitution ce soir à 21h, heure israélienne, des corps de deux otages israéliens. La famille de Tal Chaimi, qui a été tuée le 7 octobre durant le massacre, et qui a été enlevé à Nir Yitzhak, a annoncé son retour par ailleurs pour une inhumation en Israël. Donc, en fait, le corps de Tal Chaimi est arrivé durant la nuit, et ce soir, on attend le retour de deux autres corps. Son épouse, Ella Chaimi, a salué une fermeture d'un cercle. Elle dit, c'est la fin d'un cercle. On a bouclé quelque chose, c'est le début d'une espérance nouvelle pour nos quatre enfants, ajoute-t-elle. Ils ont enfin un lieu pour pleurer et pour commencer à guérir. Pour Avinatan Or, qui est un ancien otage du Hamas, notre unité et notre force de retour chez lui après 2 ans de captivité. Avinatan Or, qui avait été enlevé lors du festival Nova le 7 octobre, a livré un message d'espoir. Il dit, après une très longue période dans les tunnels, dans le noir, je suis enfin ici, entouré de l'amour du peuple d'Israël, a-t-il déclaré. Et il a salué le soutien reçu de tous les coins du pays. Emmanuel Macron rappelle l'urgence absolue de faire entrer l'aide humanitaire à Gaza. Emmanuel Macron qui a appelé à une mobilisation internationale pour garantir l'entrée de cette aide. 2 soldats de Tsahal ont été légèrement blessés cet après-midi lorsque leur char a été touché par un engin explosif dans la région de Khan Younes, qui se trouve dans le sud de la bande de Gaza. Tsahal, qui estime que le Hamas a perdu 90% de son arsenal de roquettes, selon une information de la chaîne américaine NBC, qui cite une source militaire israélienne, le Hamas ne dispose plus que de 10 000 à 20 000 combattants, après avoir perdu environ 20 000 hommes depuis le début de la guerre. L'armée israélienne, qui estime également avoir détruit jusqu'à 90% de l'arsenal de roquettes du mouvement islamiste, neutralisant ainsi sa capacité, affirme Tsahal, à reconstituer sa puissance de feu. Dans la ville de Birmingham, donc c'est en Grande-Bretagne, devenue apparemment une sorte de bastion du Hamas, manifestation hier où l'on dit tranquillement, donc dans les rues d'Angleterre, « Mort à Netanyahou, le bâtard, amen ». Donc « Death to Netanyahou, the bastard, amen ».
And all those people who are arrested for Palestine action, long may you live, and death to Netanyahu, the bastard.
Amen.
Voilà, et la foule, loin d'être choquée, évidemment, qui répond Amen, Amen, Allah. Ou Akbar, alors que le cessez-le-feu à Gaza demeure fragile, le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, annonce le renforcement du dispositif militaire en Judée-Samarie, en Cisjordanie. Des unités de l'armée régulière y seront déployées afin de relayer les réservistes et maintenir un haut niveau d'alerte. Retour en France avec l'information du jour, c'est l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Raphaël Luzan nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Raphaël.
Et bonsoir Bernard.
Voilà, donc c'est même en fait même l'information du jour en France. Donc c'est une première pour un ancien président sous la Ve République. Nicolas Sarkozy a été incarcéré à la prison de la Santé à Paris, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.
Eh oui, hein, Bernard, l'ex-chef de l'État bénéficiera-t-il de dérogations ou de conditions de détention particulières ? Égard à son statut, combien de nuits l'ex-chef de l'État dormira-t-il dans sa cellule individuelle du quartier d'isolement, immédiatement en tout cas après son incarcération? Ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté. Elle sera donc examinée à peu près dans un mois, c'est ce qu'a affirmé ce matin son conseiller Christophe Ingrin.
Au moment où nous parlons, la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. À partir du moment où il a mis un pied en détention, les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait craindre qu'il se présente pas, qu'il reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins, rien ne justifie la première heure de détention. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois, puisque la cour d'appel a 2 mois pour statuer sur une demande de mise en liberté, et le délai moyen à la cour d'appel de Paris, c'est 1 mois. Donc, en tout état de cause, même si rien ne justifie cette détention, il y est pour 1 mois. C'est un moment, comme Jean-Michel Darrois le disait, un moment qui est très dur. Mais le président a fait face. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération.
Et donc sa famille, hein, Bernard, avait appelé à un rassemblement de soutien dans le 16e arrondissement de la capitale très tôt ce matin, près du domicile de l'ancien président. Ce dernier a par ailleurs salué la foule avant d'arriver en voiture à l'établissement pénitentiaire vers 9h40. La vérité triomphera, mais le prix à payer aura été écrasant, a-t-il estimé dans un message publié sur X. En tout cas pour Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, cette situation fait sourire les malfaiteurs.
Les voyous sont contents. Ils voient ça, ils rigolent. C'est, je crois qu'on a porté aux institutions et à la société aujourd'hui un coup très dur. Sans parler du spectacle que nous offrons au monde entier.
Oui, c'est ce que
et même disais. Du spectacle que nous nous offrons à nous-mêmes.
Bien sûr.
Voilà, qui est. Voilà, donc moi je suis à la fois triste, trop profondément triste pour le sort qu'on fait à l'homme et très révolté contre la situation qui a été créée par ce jugement dont je ne comprends pas. Je ne comprends pas les fondements, je ne comprends pas les motivations.
Et puis, Emmanuel Macron veut lancer un débat sur ce qu'on appelle l'exécution provisoire.
Et oui, hein, lors d'un déplacement en Slovénie, le président de la République est revenu sur l'incarcération de son prédécesseur. La question de l'exécution provisoire est donc un débat légitime dans une démocratie, parce que tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours, a donc souligné Emmanuel Macron, tout en rajoutant que c'est un débat qui doit être mené dans le calme pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité qui convient.
Combien de temps l'ancien président peut rester en prison, Raphaël ?
Alors Bernard, Nicolas Sarkozy, qui en faisant appel a basculé donc dans le régime de la détention provisoire, peut potentiellement sortir de prison dans les 2 prochains mois. Celle-ci donc sera alors débattue lors d'une audience devant 3 magistrats et ses avocats. Nicolas Sarkozy a la possibilité donc d'assister au débat s'il le souhaite pour appuyer sa défense. Autre argument en sa faveur, hein, qui peut peser dans la balance, son âge et son état de santé, puisqu'il a désormais 70 ans et donc son incarcération peut potentiellement mettre en danger sa santé. Si la première demande de liberté est rejetée, l'ancien président de la République peut déposer une deuxième demande, voire une troisième. De plus, hein, l'ancien chef de l'État attend une autre décision de justice dans l'affaire dite Big Malion. Donc après avoir examiné début octobre le pourvoi de Nicolas Sarkozy, la Cour de cassation doit dire le 26 novembre prochain si elle accepte ou rejette son recours. En tout cas, dans le premier cas, un nouveau procès pourra s'ouvrir devant la cour d'appel. Dans le second, la condamnation en appel de Nicolas Sarkozy sera d'un an de prisonnement, soit 6 mois de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne électorale en 2012, donc deviendra donc définitive. S'il demeure alors écroué, il devra probablement purger sa peine en prison avant de pouvoir faire cette fois une demande de libération conditionnelle. En tout cas, les pourvoirs de justice, le parcours de justice de Nicolas Sarkozy continue.
Merci Raphaël. Je rappelle au passage que c'est la question de notre forum des auditeurs de ce soir à 18h30. Donc vous nous appelez au 01 43 36 04 06. 01 43 36 04 06. Est-ce que vous pensez que cette décision de mettre en prison Nicolas Sarkozy est justifiée ou pas? C'est la question du forum. Merci Raphaël. Et puis Éric Zemmour est de retour dans les médias. Il était ce matin sur RTL Matin au micro de Marc-Olivier Fogiel à l'occasion de la sortie d'un livre. Et il dit « J'ai élevé mes enfants dans la religion juive exactement comme j'ai été élevé. On respecte la tradition à la maison et en dehors, on ne donne aucun signe. »
Le livre, vous racontez dans votre livre avoir été élevé dans la tradition juive. Votre enfance a été rythmée par Shabbat, les autres fêtes juives. Ce que vous racontez déjà, dès le début, c'est que ce judaïsme discret est menacé dans votre enfance en Algérie. En fait, depuis toujours, vous vous vivez comme assiégé, Éric Zemmour.
Alors là, vous faites une extrapolation complètement délirante.
Délirante,
oui, vraiment délirante. D'abord, je raconte ça à ces 2 pages du livre.
Oui, c'est bien, oui.
Même s'il y a que 130, mais...
Donc vous n'êtes pas senti assiégé.
Vous n'êtes pas allé au-delà, remarquez. Mais, non, je me suis jamais senti assiégé, voyez-vous. Au contraire, moi, j'ai vécu dans ce qu'on appelle, comme un Israélite français, c'est-à-dire que on faisait les traditions juives à la maison et que dans la rue, on était d'une discrétion absolue parce qu'on respectait les règles de la laïcité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Vous
ça,
les faites toujours,
oui, je m'en désole.
Les traditions juives aujourd'hui, vous êtes papa d'un petit garçon, par exemple. Vous élevé dans la religion,
juive. J'ai plusieurs enfants, mais et je les ai élevés dans la religion juive exactement comme j'ai été élevé, c'est-à-dire on respecte la tradition juive à la maison et dehors, on ne donne aucun signe comme quoi on est juif. C'est la tradition républicaine française et je le répète, je regrette beaucoup que beaucoup de gens, parmi les juifs d'ailleurs, et aussi parmi les musulmans, ne respectent plus ce devoir de discrétion dont parlait Jean-Pierre Chevènement.
C'est l'objet du livre.
Éric Zemmour, ce matin, au micro de Marc-Olivier Fogiel. Et puis un peu de baume au cœur, un concert géant donné à New York au Madison Square Garden par Omer Adam. Omer Adam qui a fait littéralement une ovation, le public debout pour les otages libérés de Gaza. Vous en avez très probablement entendu parler, c'est un professeur affilié à l'université de Tel Aviv qui a reçu le prix Nobel d'économie 2025, le dernier prix Nobel, et nous sommes en ligne à présent à Tel Aviv avec Sivan Cohen-Wiesenfeld. Bonsoir Sivan.
Bonsoir Bernard.
Alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce prix. D'abord déjà, de quels travaux parle-t-on ?
Eh bien Bernard, donc le prix Nobel d'économie 2025 a été décerné le 13 octobre dernier au professeur Joël Mokyr, qui enseigne à l'université américaine Northwestern et est professeur affilié depuis de longues années à l'école d'économie de l'université de Tel Aviv. La moitié du prix, d'une valeur totale de 1,2 million de dollars, lui a été attribuée pour avoir identifié les conditions préalables à une croissance durable grâce aux progrès technologiques. 2 autres chercheurs se sont partagés l'autre moitié du prix, le français Philippe Agion du Collège de France et de l'INSEAD et le Canadien Pierre Howitt de l'Université Brown aux États-Unis.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce professeur, Joël Mokyr ?
Eh bien, le professeur Mokyr est un israélo-américain né à Leiden, aux Pays-Bas, le 26 juillet 1946, dans une famille de juifs hollandais survivants de la Shoah. Après la guerre, il immigre avec sa mère à Haïfa, où il a grandi. Il a un BA en économie et histoire de l'Université hébraïque de Jérusalem et un master et un doctorat en économie de l'Université Yale aux États-Unis. En 1974, il entre à l'Université Northwestern aux États-Unis où il enseigne jusqu'à présent. Il est ancien rédacteur en chef du Journal of Economic History, rédacteur en chef de l'Encyclopédie Oxford d'histoire économique, président de l'Association d'histoire économique, et membre de l'Académie américaine des arts et des sciences et d'institutions comparables en Europe. Ses recherches portent sur les mécanismes qui ont permis la révolution industrielle et le progrès technologique occidental. Il est l'auteur de nombreux ouvrages fondateurs, tels que Le levier des richesses en 1990, Les dons d'Athènes en 2002 et Une culture de croissance, les origines de l'économie moderne en 2016. Il soutient que le développement économique dépend non seulement des institutions et des ressources matérielles, mais aussi d'idées, d'une culture et de valeurs communes. Et pour lui, la croissance européenne moderne a été possible grâce à une culture de la curiosité scientifique et de l'expérimentation, alimentée par des réseaux d'échanges intellectuels et la liberté de penser.
Alors, comment on a réagi en Israël à ce prix très prestigieux ?
Eh bien, comme vous le savez, ces jours-ci, Israël est occupé par beaucoup d'autres sujets. Et même ici, ce prix Nobel est passé quasiment inaperçu. Le directeur de l'école d'économie de l'Université Tel Aviv, le professeur Nitai Bergman, a bien sûr félicité le professeur Joël Mokyr, chercheur de renommée mondiale, qui a grandement contribué à la recherche en économie de la croissance, et le doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université Tel Aviv, le professeur Amal Jamal a salué ce jour historique, soulignant que le professeur Mokyr enseigne de manière permanente depuis de nombreuses années comme professeur affilié à l'école d'économie de l'université et que l'obtention de ce prix est un grand honneur pour nous tous et constitue une preuve supplémentaire du statut élevé de l'école d'économie et du prestige de la recherche israélienne dans le monde.
Eh bien, Sivan Cohen Wiesenfeld, PhD de l'Université de Tel Aviv, on est vraiment très fiers de ce prix Nobel, de ce professeur de l'Université donc, de Tel Aviv, d'autant plus que ça se passe dans un contexte difficile où on menace les chercheurs israéliens, où il y a tout un contexte qui est particulièrement difficile. Et voilà, le comité Nobel a couronné le travail formidable de ce professeur. Je vous remercie. Bonsoir à vous, Sivan.
Bonsoir, Bernard.